Bienvenue à Comprendre son chien. Mon nom est Audrey Michel et je suis une amoureuse des animaux. Plus particulièrement, je me passionne pour la science comportementale. Avec ce podcast, je veux aider des gens comme moi, c'est-à-dire qui rencontrent des défis face au comportement de leur chien et qui veulent développer une relation plus harmonieuse avec lui. Le tout sans jugement et avec plaisir. Partager ma vie avec une chienne réactive a transformé la personne que je suis. C'est pourquoi je te partage ici mes réflexions et mon expérience, autant mes échecs que mes réussites. Parce que toi et ton chien, vous méritez de vous comprendre. Allô, allô! Cette semaine, on poursuit sur la thématique de l'enrichissement en s'intéressant au comportement typique à l'espèce ou on entend plus communément comportement naturel ou comportement instinctuel. Donc, on pense à quoi quand on pense à ça? Bien, généralement, au comportement que nous, comme humains, on trouve indésirable, comme japper, creuser, mastiquer, déchirer, déchiqueter. Ce sont tous des comportements qui font partie du répertoire comportemental d'un chien normal, mais nous, comme humains, c'est des comportements qu'on cherche généralement à supprimer chez nos chiens. Donc ça va être le premier volet de l'épisode, mais on va avoir un deuxième volet aussi qui va porter davantage sur les besoins sensoriels de notre chien. Donc comment on fait pour combler les cinq sens de notre chien? Parce que les chiens, ben tout comme nous, ont besoin d'être stimulés par leurs cinq sens. Et si on pense souvent à l'odorat, il y a quatre autres sens aussi qu'on ne pense pas nécessairement à utiliser pour enrichir la vie de nos chiens. Donc, ça va être vraiment les deux sphères là, de discussion aujourd'hui. Donc, quand je reviens là, vraiment à ce que je disais, là, les comportements typiques que nous, on juge indésirables, bien, comment on peut faire pour concilier les deux? Bien, c'est de trouver, je dirais, des solutions, des alternatives acceptables pour le chien. Mais on n'aime pas ça que notre chien jappe n'importe quand, après tout le monde. Alors, plutôt que de mettre, par exemple, un collier anti-aboiement à notre chien, pourquoi ne pas plutôt lui enseigner à japper sur commande? Je mettrai dans les notes d'épisode une vidéo d'André You qui montre un exemple de comment on peut enseigner ça à son chien. Donc, l'idée, c'est d'avoir un cue pour chute, silence et un cue pour permettre au chien de japper. Donc, ça peut être une alternative intéressante à simplement tenter de supprimer le comportement. Et si on pense à des choses comme creuser, bien, c'est certain que nous, comme humains, on ne trouve pas ça agréable là, que notre chien aille creuser dans nos plates-bandes. Mais est-ce qu'il y aurait des endroits où ce serait acceptable pour notre chien de creuser? Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas lui construire un carré de sable dans lequel il aurait le droit de creuser? Et on pourrait faire, à ce moment-là, la gestion de l'environnement en protégeant nos plates-bandes. Et notre chien a un endroit où est-ce qu'il peut aller creuser, il a le droit de creuser, il peut creuser autant qu'il veut, et que ce n'est pas un problème pour nous. Moi, d'ailleurs, j'en ai pas à la maison, mais quand on va en balade et que Taiga commence à creuser, je la laisse faire. Et là, surtout, c'est l'hiver, donc là, c'est génial pour elle de creuser parce que là, il y a de la neige en masse, fait qu'elle peut creuser longtemps. Je t'invite à te poser la question, est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que c'est acceptable pour moi que mon chien creuse? Sinon, est-ce que je peux créer des endroits où ça serait acceptable pour mon chien d'exprimer ce comportement-là? Et sinon, on pense au besoin de masquer. Ça, c'est un besoin, je pense, que les gens sont quand même assez sensibilisés. Il y a toute une gamme maintenant de produits masticatoires qui existent. Mais je vous invite toutefois à la précaution. Parce que il y a un danger que nos chiens se brisent les dents si on utilise des items masticatoires qui ne sont pas sécuritaires. Et moi, mon chien s'est brisé une dent sur du fromage de yak, que tout le monde me disait, c'est super sécuritaire pour un chien, mais non, elle s'est cassée une prémolaire, elle s'est cassée une des plus grosses dents là, dans la gueule du chien, donc j'ai dû la faire retirer. Et lorsque je parlais avec le vétérinaire, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'on veut donner seulement des choses qu'on est capable de plier à la main. Si on n'est pas capable de le plier, c'est que c'est trop dur pour le chien. Mais je sais que la majorité des produits qui existent sur le marché, ben on n'est pas capable de les plier à la main. Mais aussi, les produits qu'on est capable de plier à la main ne durent généralement pas très longtemps. Et nous, comme propriétaires de chiens, mais souvent donner une activité masticatoire à notre chien, c'est un moyen de, oui, répondre aux besoins du chien, mais aussi parfois de répondre à nos besoins à nous aussi, hein, parce que ça leur donne un moment où est-ce qu'ils sont occupés, ça va les calmer également. Donc, pour nous, ça nous permet, par exemple, de faire autre chose pendant qu'ils font leur activité masticatoire. Donc, je ne vous donnerai pas de recommandations sur ce que vous devez utiliser ou non, parce que je pense qu'en réalité, ça dépend de chaque chien. Il y a des choses comme les boîtes cervidées, que ça, ben, tu sais, j'ai entendu beaucoup d'histoires de gens que leurs chiens se sont brisés les dents là-dessus. Donc, il y a des choses comme ça que je vous dis, je n'encouragerais pas, mettons. Mais il y a des choses comme les boulistiques que, ben, il y a plein de chiens qui reçoivent ça, qui n'ont pas de problème. Moi, j'ai cessé de donner des boulistiques à Taiga parce que Taiga a commencé à s'user les dents à cause qu'elle mastique vraiment d'une façon trop vorace. Et je vais devoir éventuellement faire retirer une deuxième dent parce que c'est ça, elle est tellement vorace dans sa façon de mastiquer qu'elle s'est abîmée une autre dent. Donc, maintenant, je privilégie davantage, pour mon cas à moi, les cônes congelés parce que c'est plus sécuritaire, disons, pour la dentition de Taiga. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'être à l'observation de votre chien, puis de regarder la gueule de votre chien quand même régulièrement. Et ça, si on est capable de l'enseigner en soins coopératifs, c'est encore mieux pour voir justement, mais la dentition de mon chien, elle se porte comment? Et vous serez capable de prendre des décisions à ce moment-là sur qu'est-ce qui est approprié de donner ou non à votre chien. Et finalement, ben, je vais parler de déchirer et déchiqueter. Donc ça, c'est une activité, en tout cas pour moi, que Taiga adore. Donc, nous, on a dû faire une croix sur l'idée d'avoir des beaux petits coussins en mousse mémoire pour le chien, parce que pour elle, c'est un gros toutou à déchirer et ensuite sortir toute la mousse puis la déchiqueter en petits morceaux. Donc maintenant, on a des lits surélevés parce que ça, il n'y a pas de mousse qui peut se déchirer. On utilise aussi des tapis de yoga parce que ça ne peut pas les déchirer, sortir la mousse puis la sortir en petits morceaux. Donc, on a adapté notre gestion de l'environnement pour répondre à notre besoin à nous. Mais son besoin de déchiqueter, de déchirer, il est encore là. Et au départ, quand on a adopté Taiga, ben là, je lui achetais plein de beaux toutous là, à l'animalerie. Mais elle, son trip, c'était de trouver la couture la plus ferme pour déchirer, puis ensuite sortir toute la mousse du toutou. C'est un squeak à l'intérieur, d'aller tuer le squeak pour qu'il fasse plus aucun son. Mais là, moi, je viens de payer 30$ pour le petit toutou, là. Ça me tente pas, moi, qu'elle déchire. Et donc, au début, j'étais toujours en train de l'interrompre pour l'empêcher de faire ça, parce que là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Je l'ai payé tellement cher, le petit toutou. Je veux pas qu'elle scrappe la première fois qu'elle a joué avec. Puis, j'ai lu le livre Canine Enrichment for the Real World. Et là, je suis venue à la réalisation de, oui, mais c'est normal que mon chien fasse ça. Donc, j'ai arrêté d'acheter des toutous à 30$. J'achète des toutous au Dollarama, qui me coûte 3$ à la place. Donc, je suis beaucoup plus en paix avec ça, et Taiga, elle, peut répondre à son besoin de déchiqueter, de déchirer. Si on ne veut pas donner des toutous, mais on peut donner des choses comme ce que je fais régulièrement, donner des boîtes de carton, donner du papier, que le chien a le droit de déchirer. Moi aussi, des fois, des vieux t-shirts, plutôt que les jeter ou d'en faire de la guenille, ben je vais les découper, puis je vais les donner à Taiga pour qu'elle puisse déchirer et déchiqueter le morceau de tissu. Puis ça, c'est un jeu qu'elle adore, là. Surtout là, quand moi, je tiens un bout du tissu, puis elle prend un autre morceau, puis commence à tirer dessus, puis que là, il se défait tranquillement. Là. Ça, là, elle adore ça. Puis ça, c'est devenu une belle activité pour nous deux, dans le fond. On déchire ensemble le morceau de tissu, alors qu'au début, ben, c'était pas une activité que je lui offrais. Et maintenant, c'est rendu une activité que toutes les deux, on apprécie. C'est sûr que, bon, ensuite, il faut ramasser les morceaux, là. Ça, c'est peut-être le bout que j'apprécie moins. Mais quand même, de voir comment ça la rend de bonne humeur, comment elle est enthousiasmée de faire cette activité-là, ben ça compense pour le ramassage que j'ai à faire. Par contre, note de sécurité très importante. Puis ça vaut pour la mastication aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça vaut pour la mastication. Ces activités-là devraient toujours se faire sous supervision. Et pourquoi? Mais parce que autant pour la mastication que le déchiquetage, on a un risque que le chien s'étouffe, surtout si la mastication, notre chien a tendance à ingérer des gros morceaux. On veut pas ça. Si vous avez un chien qui a tendance à ingérer ce qui déchire, ben là, vraiment, surveillance plus, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec un chien, par exemple, qui a avalé un morceau de tissu qui n'avait pas d'affaire à avaler, parce que là, on peut avoir des complications et on ne veut pas ça. Donc, ça, c'était pour le volet des comportements, entre guillemets, indésirables. Maintenant, je veux m'intéresser aux comportements typiques à l'espèce, mais en lien avec spécifiquement les cinq sens. Donc, on parle de l'odorat, de l'ouïe, de la vue, du toucher et du goût. Et bien, l'odorat, c'est probablement celui auquel on pense encore une fois le plus parce qu'on le sait, les chiens ont un odorat extrêmement plus développé que le nôtre. Puis moi, ça, c'est toujours quelque chose qui va me fasciner, je pense, dans la vie. Quand on sort dehors, puis que le taïga, elle commence à renifler un courant d'air, puis que là, elle a l'air vraiment investie, puis que je me dis, mais mon Dieu, c'est quoi les informations qu'elle est en train de découvrir grâce à cette l'odeur qui lui vient? Moi, j'ai aucune connaissance de qu'est-ce qui est en train de se partager de manière volatile, mais elle est très, très au fait de ce qui se passe dans le voisinage par les odeurs, j'en suis certaine. Donc, c'est ça, l'odorat, c'est le sens principal du chien. Et j'ai entendu un jour Ken Ramirez donner une belle image que j'ai envie de vous partager, de dire que si nous, on rentre dans une maison, puis que quelqu'un est en train de cuisiner des brownies. Nous, on va rentrer dans la maison, on va dire « Hum, ça sent les brownies ici. » Mais notre chien, lui, il va rentrer dans la maison, puis il va dire « Hum, je sens la farine, je sens le chocolat, je sens le lait, je sens le sucre. » Donc, le chien, lui, est capable vraiment de dire individuellement chaque odeur, qu'est-ce que c'est, alors que nous, on va avoir une image olfactive, globale de l'odeur. Puis pour moi, ça a été vraiment une façon de bien comprendre comment l'odorat du chien est beaucoup plus détaillé que le nôtre. Donc, comment on peut enrichir le quotidien olfactif de notre chien? Bon, mais c'est sûr qu'on pense à des activités comme la détection d'odeur. Donc, on peut se lancer dans la détection d'odeur vraiment avec, par exemple, des huiles essentielles. Mais ça peut être simplement d'enseigner à notre chien à trouver de la nourriture cachée. Donc, ça peut être une façon d'exploiter davantage leur odorat. Mais ça peut être des choses comme, on introduit une odeur du jour. donc, on prend un parfum, quelque chose, puis on le présente au chien. L'idée, c'est pas d'exposer le chien très longtemps à la nouvelle odeur, mais c'est d'introduire une variété de nouvelles odeurs à notre chien. Moi, une chose que j'aime particulièrement l'été, j'aime ramasser des fleurs fraîches, j'aime acheter des bouquets aussi. On a des belles fermes ici là, écologiques de fleurs fraîches qui ont des abonnements de bouquets. Puis ça, c'est de l'enrichissement pour moi d'avoir des fleurs, mais quand j'ai des fleurs comme ça qui sont sans pesticides, j'aime ça mettre le bouquet au sol pour que Taiga puisse sentir renifler les fleurs. C'est une façon pour moi d'amener de l'enrichissement dans ma vie, à moi, avec les fleurs, mais aussi dans sa vie à elle. Moi, c'est l'aspect visuel des fleurs qui est l'enrichissement pour moi, mais c'est l'aspect olfactif. Une autre chose, nous, c'est très drôle, on appelle Taga inspecteur Taga parce que chaque fois qu'on arrive à la maison avec des sacs de magasinage, ben il faut qu'elle vienne sentir les sacs. Puis ça, c'est quelque chose que ça fait partie de notre routine maintenant. Je la laisse faire. Elle aime ça, sentir qu'est-ce qui se trouve dans nos sacs. C'est sûr que si c'est de la nourriture, bon. Je la laisse peut-être pas sentir parce qu'elle pourrait être tentée de plonger le nez dedans. Mais c'est une façon bien simple pour moi d'enrichir son quotidien olfactif. J'ai parlé de, par exemple, utiliser des parfums ou quoi que ce soit, mais aussi on peut utiliser des odeurs synthétiques d'animaux. Et là, ça, je sais que ça dégoûte plusieurs personnes. Je me rappelle d'avoir déjà parlé de ça dans une conférence sur le comportement canin, puis je m'étais fait regarder un peu de travers par les autres personnes qui y assistaient parce que les gens étaient un peu dégoûtés. Mais on peut acheter, par exemple, de l'urine synthétique de chevreuil, puis on peut en mettre quelques gouttes dans notre cour arrière pour juste avoir une odeur intéressante pour notre chien à venir explorer. Donc ça aussi, c'est une autre façon d'amener la diversité dans le monde olfactif de notre chien. Donc je parlais que moi, j'aime bien amener des fleurs à l'intérieur, mais si on a un jardin, on a un espace, une cour, où est-ce qu'on peut planter des fleurs, mais ça peut être intéressant aussi de planter justement différentes variétés de fleurs ou d'autres plantes qui sont bien entendu sécuritaires pour le chien, pour créer un jardin olfactif à notre chien. Puis cette idée-là, j'aimerais ça l'avoir un jour déployée à plus grande échelle et voir des parcs à chiens olfactifs. Je sais que ça existe aux États-Unis. À Woodville West, ils ont un Dog Sensory Garden, où est-ce que l'idée, c'est d'avoir un parc à chiens, où est-ce qu'ils ont planté toutes sortes de plantes, différentes choses pour justement encourager les chiens à aller explorer avec leur nez ce qui se retrouve dans le parc à chiens plutôt que de simplement avoir un parc à chiens que c'est du gazon avec des clôtures partout autour. Donc, si on s'éloigne de l'odorat pour maintenant aller vers Louis, comment on peut enrichir le quotidien de notre chien au niveau de Louis? Ben c'est sûr qu'on pense à des choses comme donner de la musique ou de la radio, mais encore une fois, il y a certains chiens qui vont préférer le silence. Donc, il ne faut pas qu'il y ait du bruit constamment non plus. Il faut qu'il y ait des moments pour se détendre. Je vais vous mettre en note d'épisode, une entrevue avec le docteur Jean Gauvin qui a été faite à l'émission Moteur de recherche où est-ce qu'il parlait de justement cette question-là. Est-ce qu'on doit laisser de la musique à nos animaux, à nos chiens plus spécifiquement? Et il y avait une étude qui démontrait que oui, c'est bénéfique. Il y a certaines musiques, comme par exemple la musique reggae, qui sont plus propices à la détente pour le chien, mais c'était une étude qui était financée quand même par une entreprise qui se spécialise dans la production de musique pour les chiens. Mais encore une fois, tu sais, je pense que c'est d'étudier, d'observer notre chien, nous, est-ce qu'il apprécie d'avoir de la musique ou de la radio qui joue. Nous, on a tendance à remarquer que Taiga, ben ça peut la calmer à certains moments. Quand elle est trop excitée, par exemple, le soir, mais on va mettre une petite musique de fond tranquille, puis ça l'aide à l'apaiser, mais ça, c'est anecdotique. Il n'y a pas nécessairement de consensus là, à ce niveau-là, au point de vue scientifique. Donc, comme toute chose, c'est d'observer notre chien comme individu, comment il répond à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui nous semble lui apporter du bénéfice ou au contraire, c'est quelque chose qui semble lui déplaire? Pour ce qui est des chiots, faire la socialisation pour le chiot, pour que justement il soit à l'aise dans le monde, tout ça. Mais il faut penser aussi que c'est les sons. C'est important d'exposer notre chiot à une variété de sons pour que justement, à l'âge adulte, mais ils ne se mettent pas à avoir peur de certains sons. On veut éviter, dans le fond, on veut prévenir que notre chien développe une phobie des sons. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a fait ce travail-là, notre chien ne développera pas de phobie des sons. Il peut avoir d'autres facteurs derrière ça. Encore une fois, je vous mettrai en note d'épisode un lien vers le podcast de CogDog Radio où est-ce qu'il y a une entrevue spécifiquement sur la question de la phobie des sons. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, ben tu pourras aller creuser plus loin. Mais comme dans plusieurs choses, c'est en anglais. Donc, voilà. On a parlé de l'odorat, on a parlé de l'ouïe, maintenant la vue, la vision. Autant les chiens ont un meilleur odorat que nous, ils sont aussi capables d'entendre des fréquences que nous, on n'entend pas. Ils ont une moins bonne vision que nous. Ils sont pas très bons pour voir les objets qui sont stationnaires, mais par contre, ils sont excellents pour voir des choses qui sont en mouvement à cause de, justement, leur passé de prédateur. Donc, comment on peut enrichir le quotidien de notre chien au niveau de la vision? Ben, introduire des couleurs différentes, des formes différentes, souffler des bulles pour notre chien. Ça peut être des choses comme ça. Quand je parle couleurs différentes, formes différentes, ben, ça peut être de... ça peut être, par exemple, d'apprendre à notre chien à discriminer entre certaines couleurs, discriminer entre certaines formes. Donc, on a trois cônes. On a un cône rouge, bleu et jaune, puis on veut apprendre à notre chien à reconnaître le cône rouge, par exemple. Donc, ça, c'est une idée de choses qu'on peut faire. Quand on parle du toucher, ben on veut introduire des surfaces différentes, par exemple. Donc, on peut avoir des tapis dans la maison, surtout si on a un chien qui n'est pas à l'aise à marcher sur des planchers lisses comme des planchers de bois franc, par exemple. Et quand je parlais tout à l'heure d'un jardin sensoriel, ben ça peut être ça aussi, c'est d'avoir différentes surfaces. Donc, on peut avoir notre carré de sable pour creuser. Fait que là, le chien peut marcher dans du sable en plus de creuser. Ensuite, il y a de la pelouse. Peut-être qu'à un autre endroit, on a du paillis. Donc, le chien va sentir sur ses coussinets différentes textures. Puis, bien entendu, si notre chien apprécie d'être touché par l'humain, bien, les caresses, les câlins, ça peut être des moyens d'enrichir la vie de notre chien. Si vous voulez aller encore plus loin aussi, il y a des techniques de massage qu'on peut apprendre. Donc, ça, c'est des façons d'amener de la variété dans le quotidien de notre chien si, bien entendu, il apprécie être touché. Et finalement, bon, ben, il y a le goûter. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'introduire différentes saveurs, différents aliments variés dans le quotidien de notre chien. Donc, ça peut être des friandises de temps en temps. Ça peut être donner des fruits et légumes à nos chiens. Bien entendu, renseignez-vous toujours sur ce qui est sécuritaire à donner à son chien ou non, parce qu'on ne voudrait pas rendre notre chien malade par accident. Donc, on vérifie toujours avant de donner quelque chose à notre chien, mais ça peut être de donner des petits bouts de fromage, des petits morceaux de viande. On peut faire aussi un test, justement, voir qu'est-ce que notre chien préfère. Donc, on met, par exemple, le chien dans une autre pièce. On va mettre cinq morceaux de nourriture différents. Puis là, on relâche le chien. Puis là, on note qu'est-ce qu'il mange dans quel ordre. Puis si on voit que notre chien mange toujours la même chose, puis on répète bien entendu l'exercice quelques fois, puis si on voit que notre chien choisit toujours la même chose en premier, bien là, on est capable de dire, bon, bien par exemple, mon chien, il préfère le fromage aux carottes, par exemple. Donc, c'est ça, d'amener un peu de variété comme ça, puis d'essayer d'identifier les préférences alimentaires de notre chien, ça peut être très utile aussi par la suite quand on veut entraîner notre chien, puis qu'on a besoin de quelque chose qui a plus de valeur. Donc, une idée comme ça. Puis, ben je parlais tout à l'heure des cognes congelés, mais on peut avoir des cognes, oui, avec leur nourriture, mais on peut ajouter, par exemple, des fois... du bouillon de poulet ou du yogourt nature, ajouter un petit peu de pâté congelé à l'intérieur. Ça peut être des moyens là, d'amener de la variété au niveau des papilles gustatives de notre chien. Donc, c'est ce qui conclut pour l'épisode d'aujourd'hui. Si je résume ce que j'ai présenté, on a parlé de ce serait quoi des alternatives qu'on pourrait trouver pour permettre à notre chien d'exprimer certains comportements qui sont typiques au chien, mais que nous, on juge indésirables comme humains. Puis ensuite, on a parlé de différents moyens d'introduire de la variété au niveau des cinq sens de notre chien, parce que ben, les cinq sens, mais notre chien a plein de comportements en lien avec ses cinq sens, donc comment on peut rendre ça plus riche pour lui. Puis bien entendu, ben, l'idée, comme je le dis souvent, c'est pas d'être parfait, mais c'est de trouver une harmonie. Donc, tu sais, je ne vous dis pas de commencer à donner des repas 5 services à votre chien là, pour qu'il y ait de la variété autant que ça. Là. L'idée, c'est plus de trouver des petits moyens faciles au quotidien pour justement ben, rendre le milieu de vie du chien plus intéressant. Puis, ben, par la bande, notre milieu de vie aussi à nous, parce que comme je disais, par exemple, tout à l'heure, je parlais de fleurs, ben oui, c'est enrichissant pour le chien, mais ça l'est aussi pour nous. Je parlais du jeu d'échiqueter les vieux morceaux de tissu, ben mais que pour moi et Tega, c'est devenu un jeu qu'on fait ensemble, donc c'est devenu enrichissant pour moi aussi. Donc, c'est de trouver ces différents moyens-là pour ben amener de la plus-value à ce qu'on fait avec notre chien. Donc ça, c'était mes suggestions à moi, mais si toi, tu as d'autres idées, je serais vraiment curieuse de les entendre. Donc si tu as envie de les partager, tu peux me rejoindre soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, tu peux me retrouver à barre en dessous Audrey, barre en dessous Michel. Et sur Facebook, bien, il y a bien entendu la page Facebook de Comprendre son chien et il y a également le groupe aussi. Donc tu peux me rejoindre à ces endroits-là. Et d'ici la semaine prochaine, je te souhaite beaucoup de plaisir avec ton chien. Bye bye!